VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Kigali. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique aux États-Unis. Le président élu Donald Trump, en dépit de nombreuses manifestations hostiles dans certaines villes américaines, a une journée chargée ce vendredi, puisqu'il compte préparer des décisions importantes sur l'équipe qui va l'entourer après sa prise de fonction en janvier. Les précisions de John Lindon.
Journée chargée prévue à New York. Je vais bientôt prendre des très importantes décisions sur les personnes qui dirigeront notre gouvernement, a tweeté le milliardaire républicain. Et les spéculations vont bon train. Le nom du général à la retraite Michael Flynn, partisan d'un rapprochement avec la Russie, est avancé pour devenir conseiller à la sécurité nationale. Rudy Giuliani, ancien maire de New York, pourrait hériter de la justice. Jeff Sessions, sénateur de l'Alabama, pourrait prendre la défense ou les affaires étrangères, un département que Newt Gingrich, ancien speaker de la Chambre des représentants, pourrait aussi bien diriger. Kellyanne Conway, sa directrice de campagne, a confirmé avoir accepté un poste dans la future administration. Hier, plusieurs milliers d'opposants ont manifesté dans une dizaine de villes à travers les États-Unis contre l'élection de Trump à la Maison-Blanche. Dans un autre tweet, le président élu s'en est pris aux médias, accusé d'alimenter les tensions.
Cela dit, les Américains musulmans se préparent à vivre sous un nouveau président élu qui avait pendant sa campagne proposé d'interdire l'entrée aux musulmans étrangers à la suite de plusieurs attentats terroristes aux États-Unis. Les Américains musulmans sont-ils inquiets, Salwa Jafari?
Pour beaucoup de musulmans résidant à Dearborn, au Michigan, la victoire de Donald Trump est venue comme une surprise.
Trump a mené une campagne ancrée dans le racisme et la bigoterie. Il l'a utilisée pour avoir le soutien des électeurs et nous assistons maintenant au résultat. Et c'est une pensée effrayante.
Pour Abdallah Hamoud, nouvellement élu membre du Congrès, la nuit électorale était remplie d'émotions contradictoires.
C'est un vrai contraste. Pour la première fois dans l'histoire de Dearborn, on a élu un musulman arabo-américain de la première génération. Et à l'échelle de l'État, on soutient Trump et une présidence Trump.
Asha Noor est une activiste au centre communautaire arabe. Trump à la Maison-Blanche, c'est une image qui ne l'enchante pas.
Cela montre que le racisme et la bigoterie ont prévalu. Cela me montre que je ne vis pas dans une société post-raciale. Et cela me montre que certaines communautés ne sont pas les bienvenues dans cette société.
L'éditeur d'Arab American News, Osama Siblani, affirme que beaucoup d'Américains musulmans ont voté pour Hillary Clinton, mais n'étaient pas vraiment passionnés par sa candidature.
Cour pénale internationale de La Haye, la procureure de la CPI Fatou Bensouda a de nouveau accusé l'ancien chef de guerre de la RDC Bosco Ntaganda de tenter de faire dérailler son procès pour crime de guerre en subornant des témoins. Une analyse de 450 conversations téléphoniques révèle l'implication de Ntaganda dans un large projet de perversion de la marche de la justice, a affirmé Madame Bensouda dans un document officiel daté de ce lundi. Cela s'est notamment traduit par la manipulation de témoins potentiels de la défense, obstruction des enquêtes de l'accusation et d'interférence avec les témoins de l'accusation, a-t-elle précisé. Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans le procès de Bosco Ntaganda qui avait mené en septembre une grève de la faim de 2 semaines pour protester contre ses conditions de détention imposées après des inquiétudes au sujet d'intimidation présumée de témoins. Affirmant alors que l'accusation n'avait aucune preuve, Bosco Ntaganda avait mis fin à son action après avoir reçu l'autorisation d'interjeter appel de ses restrictions et après que les juges aient ordonné la prise de mesures pour permettre à son épouse de lui rendre visite. Bosco Ntaganda plaide non coupable de 13 chefs de crimes de guerre, 5 chefs de crimes contre l'humanité, dont meurtre, pillage, attaque contre les civils, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, l'Association des familles de militaires disparus se félicite aujourd'hui de la décision des autorités judiciaires de juger le chef de l'ex-junte malienne, le général Amadou Sanogo, devant les assises à Bamako à partir du 30 novembre pour assassinat et complicité d'assassinat, des militaires dont les corps ont été découverts dans un charnier en 2013. Le général Sanogo, incarcéré depuis fin 2013, est inculpé dans l'affaire des Bérets Rouges, des soldats opposés au putsch de mars 2012 qui a renversé le président Amadou Toumani Touré et dont les corps ont été retrouvés en décembre 2013 dans un charnier à Diago, près de Bamako. Les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-coup d'État. Nous voulons savoir comment nos pères ont été arrêtés, comment ils se sont retrouvés dans une fosse commune, a déclaré Amadou Kanté, un responsable de l'association des familles de militaires disparus. Et M. Kanté d'ajouter que son groupe veut d'un procès public, non pas d'un procès bâclé. Selon le code pénal malien, le général Sanogo risque la peine de mort. En Côte d'Ivoire, le gouvernement menace de révoquer les fonctionnaires grévistes. Décision annoncée après le durcissement de leur mouvement par les fonctionnaires qui avaient arrêté le travail pendant 3 jours. Ces derniers qui dénoncent une nouvelle fois les réductions dans les pensions des retraités des veuves menace de reprendre la grève à partir de décembre si leurs revendications ne sont pas satisfaites. L'explication de Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien.
Si nos revendications ne sont pas satisfaites, comme c'est le cas au troisième jour de notre grève, parce qu'au lieu de nous appeler à la discussion, c'est plutôt des menaces que nous recevons de la part du gouvernement, des injonctions que nous recevons de la part du gouvernement, alors que nous sommes ouverts à la discussion. Et la grève prend fin aujourd'hui même, jeudi. Si rien n'est fait, nous allons relancer le mouvement, le durcir, le rallonger dans le temps, et cela d'ici le début du mois de décembre.
Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public ivoirien. Au Burundi, plus de 13 000 étudiants des universités publiques et privées attirent l'attention sur leur sort, déclarant publiquement que leur vie au quotidien est difficile. Suivant le reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Ces étudiants de l'université de Bujumbura vivent dans une même chambre louée dans le quartier de Nyakabiga, proche. 3 sont boursiers du gouvernement, les autres non. Ils se disent frères au sens burundais du terme, partageant la même chambre et la même assiette une fois disponible. La plupart des étudiants louent des maisons dans des quartiers périphériques, car leur bourse de 17 dollars le mois ne leur permet pas de vivre décemment. Cet étudiant de deuxième candidature en histoire nous explique que lier les deux bouts du mois est une gymnastique intenable.
La vie est difficile. Nous sommes en train de mener une vie vraiment difficile, surtout concernant la vie, comment on peut se restaurer et puis la location de là où nous habitons, c'est vraiment compliqué avec la bourse que nous percevons de 30 000. Si on parvient à payer la maison, on ne peut pas se restaurer, on ne peut pas voir comment se déplacer vers le milieu ou apprendre les cours. C'est vraiment difficile. Ça arrive souvent que ça provoque les échecs.
Jadis, les étudiants de l'Université du Burundi avaient des bus de transport. Aujourd'hui, les anciennes habitudes ne sont pas de mise. Il faut aller dans les amphithéâtres à pied sous un soleil ardent ou une pluie diluvienne. La belle époque des années dernières a déjà changé. Témoignage d'un étudiant qui habite à Nyakabiga avec 5 autres étudiants.
La maison donc est louée à 80 000. Il nous est difficile de payer cette maison, mais aussi de manger. Étant donné que nos parents sont pauvres, il nous est aussi difficile de trouver quelque chose à manger. 30 000, c'est très difficile.
Toutes ces conditions draconiennes dont font face quotidiennement les dizaines de milliers d'étudiants des universités au Burundi ne facilitent pas l'assimilation des cours. Les résultats académiques ne sont pas brillants, comme l'affirme ce fonctionnaire chargé de la qualité des cours enseignés à l'université du Burundi. Docteur Valos Runagu.
Je pense que ce que disent les étudiants est tout à fait correct, une réalité, que les conditions dans lesquelles vivent et travaillent les étudiants impactent de façon directe leur performance sur le plan académique. Par le passé, il y avait un bon nombre d'étudiants qui étaient logés au niveau des homes universitaires et qui donc bénéficiaient des avantages sociaux quand même assez consistants, qui leur permettaient de travailler dans des conditions plus ou moins acceptables. Eh bien, je dois dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces avantages sociaux ont beaucoup diminué. C'est clair que les conditions de vie de plus en plus difficiles dans lesquelles se trouvent nos étudiants impactent de façon directe leur performance sur le plan académique.
Aujourd'hui, les autorités gouvernementales ont opté pour un prêt bourse pour les futurs étudiants de l'Université du Burundi, excepté ceux qui reçoivent des bourses d'excellence. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et pour terminer, en Afghanistan, les talibans ont revendiqué une attaque contre le consulat allemand de Mazar-i-Sharif dans le nord du pays qui a fait au moins 6 morts. Une opération de représailles, disent-ils, à la suite de la mort de civils dans un bombardement de l'OTAN la semaine dernière à Kunduz dans le nord-est.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.